Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal sur Radio Kapi. Les femmes déplacées sont exposées aux abus sexuels et à la prostitution dans la ville de Butembo. Les réseaux nationaux des élites Renadel qui les dénoncent appellent les autorités à sanctionner les auteurs de ces actes qui profitent de la pauvreté de leurs victimes. Les agents de l'Observatoire volcanique de Goma lèvent partiellement leur grève 2 semaines après. C'est pour, affirme-t-il, assurer la surveillance des données des volcans qui constituent une menace pour la population de Goma. Notre invité est Maître Eric Bissello, avocat principal du collectif des avocats de M. Jacques Indala, opposant politique et président du mouvement du réveil des prises de conscience. Il revient sur la plainte contre Mme Denise Dussochois, poursuivie pour des sévices commis sur leur client. Bonjour, ce journal part du Nord Kivu. Les réseaux nationaux des élites dénoncent des cas d'abus sexuels dont sont victimes des femmes déplacées dans la ville de Butembo. Il s'agit des déplacés qui ont fui récemment l'insécurité dans les secteurs des Bapères. Certaines se livrent à la prostitution à cause de la pauvreté, d'autres se réprisent des forces par des hommes en contrepartie d'une assistance, rapportent les coordonnateurs du Renadel. Tout en condamnant ces actes, le Renadel plaide pour l'implication des autorités afin que les auteurs soient poursuivis. Cyprien Sangala, son coordonnateur, explique au téléphone des grévistes Salomon.
La situation de la femme déplacée à commune Wolamba est horrible. Nous avons visité plusieurs familles ayant fui la guerre et qui ne savent plus d'ailleurs gagner leur village, soit parce que la paix n'y est revenue jusqu'aujourd'hui, soit parce que leurs maisons ont été incendiées et nombreuses disent n'ayant plus le courage d'ailleurs d'y rentrer après la tuerie de leur mari. Et c'est dit au traumatisme, mais ce que je regrette, vu les actes de viol, d'harcèlement sexuel dont elles ont vraiment affirmé être victime parce que certains seraient d'ailleurs admis chez FEPSI pour le traitement. Je trouve détruire cette situation. J'appelle aux mal intentionnés d'éviter de s'attirer des malédictions, chercher à satisfaire son désir sexuel par le choix d'une fille ou une femme déplacée. C'est vraiment bloquer sa vie. Et je crois qu'il était temps pour le maire de la ville de prendre cette situation au sérieux. Quelqu'un ne peut pas venir dans la région sécurisée pour maintenant rencontrer des problèmes qui vont coûter toute sa vie.
Dans les territoires de Beni, toujours au Nord Kivu, les populations du secteur des Rouenzori disent apprécier la présence de la MONUSCO dans leur entité. Elles l'ont encore réaffirmé ce vendredi à Kilia, à 25 km de la ville de Beni. C'était à l'occasion d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire qui a réuni la MONUSCO, les autorités politico-administratives, militaires, policières et des membres du comité local des protections. Guylaine Kassassia était de la partie. Voici son reportage.
Les participants à cet échange purement sécuritaire évaluatif ont reconnu que la sécurité était revenue dans la zone depuis près d'un an et demi. Autrefois ciblée par les rebelles des ADEF, Kilia et sa région auraient trouvé cette accalmie grâce à l'installation d'une base militaire de la MONUSCO depuis 3 ans, ont déclaré les habitants. Sawasawa Paluku, président de la société civile de Kilia.
Depuis l'arrivée de MONUSCO ici à Kilia, la situation c'est très calme. Avant c'était en tout cas très grave parce que les rebelles attaquaient n'importe quoi. Dire que la MONUSCO peut partir, il faut que les autorités nous rassurent que la situation sécuritaire c'est au top. Parce que nous on a peur que après le départ de MONUSCO que cet ennemi revienne encore. Nous voulons que la MONUSCO reste parce que la population qui est retournée commence à se réinstaller.
Les participants ont également salué certains projets de développement initiés par la MONUSCO, notamment la réhabilitation de la route Kilia-Halungupa, longue de 7 km et qui facilite les interventions des forces de sécurité, ou encore l'éclairage public qui a permis la réduction du banditisme au centre de Kilia. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Les agents de l'Observatoire volcanique de Goma, OVG, ont décidé de la levée partielle de la grève sèche qu'ils observent depuis plus de 2 semaines. Un service minimum sera observé pour la surveillance des données des volcans en attendant le paiement de leurs primes spécifiques auprès du ministère des tutelles à Kinshasa. Cette décision a été prise ce jeudi après une rencontre entre les gouverneurs du Nord Kivu et une délégation des agents de l'OVG. C'est pour permettre aux scientifiques de reprendre la surveillance des données des volcans Nyiragongo et Nyamulagira du lac Kivu ainsi que du gaz carbonique dit Mazuku qui constitue une grande menace pour la population de Goma et ses environs. Bernardine Djambou nous en dit plus.
Bien que ce mouvement de grève ne soit pas totalement levé, la délégation de l'OVG rassure tout de même d'observer un service minimum pour la surveillance de ces deux volcans et du lac Kivu. Mais ce compromis est encore temporaire, dit-il, car leur revendication de non-paiement de leur prime spécifique de 9 mois n'est pas encore prise en compte. Delphine Chiza, un agent à l'OVG.
Comme le gouverneur nous a promis de nous accompagner, de plaider pour nous, nous acceptons de le faire parce que nous avons besoin de ce qu'il promet de faire pour nous. Mais nous soulignons vraiment que la grève n'est pas levée. Nous allégeons un tout petit peu cette grève en organisant un service minimum pour une durée d'une semaine.
Ces derniers ont remis au gouverneur un état de besoin qui permettra la reprise de la surveillance des données volcanologiques. C'est notamment du carburant pour les déplacements sur le terrain, la connexion Internet et bien d'autres urgences. Espoir Sangoa, porte-parole civile du gouverneur militaire du Nord Kivu.
On vient de débloquer un montant de 5 400 $ pour permettre à ce que ces services minimums-là puissent reprendre et c'est selon les besoins qui a été présenté.
Contactez le directeur général de l'OVG, se réserve de tout commentaire. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Sans plus tarder, rendons-nous dans la province du Congo central où l'ONG Fédération Congolaise des Droits de l'Homme et des Développements FCHD s'est dit indignée face à l'attitude non responsable du gouvernement concernant les revendications des enseignants ayant occasionné la paralysie des activités scolaires depuis la date prévue pour la rentrée scolaire jusqu'à ces jours. Dans une déclaration à la presse, cette structure s'insurge contre les inégalités sociales qui minent la RDC, surtout en ce qui concerne les écarts criants des rémunérations entre les fonctionnaires de l'État et les gouvernants, aspect qui, selon la FCHD, conduit au mouvement de grève à répétition en RDC. Pour préserver l'enseignement, considéré comme un secteur clé de la vie d'un pays, la FCHD appelle le chef de l'État et la première ministre à s'investir dans la recherche d'une solution immédiate aux revendications des enseignants afin que tous les enfants reprennent le chemin de l'école. On écoute Gabriel Makiesse, son coordonnateur au micro de Nana Plurich Mambou.
Il est inadmissible de comprendre que l'enseignant qui est au centre du développement de la nation soit traité de moins valable. Selon l'observation, il est à constater que presque 80% des ressources du pays sont au bénéfice des gouvernants, alors que les fonctionnaires en général et les enseignants en particulier vivent la misère à cause du manque de salaire pour les uns et du maigre salaire pour les autres. Cependant, considérant que cette situation porte préjudice à tout un peuple dont les enfants chôment dans des maisons, considérant que les enfants ont droit à l'éducation telle que consacrée par la Constitution de la République, nous interpellons le président de la République, chef de l'État, et la première ministre, chef du gouvernement, de s'investir à la recherche de la résolution immédiate aux revendications des enseignants afin que nos enfants reprennent le chemin de l'école.
Du Congo central, rendons-nous au Kwilu, où les enfants des déplacés de Kwamout se trouvant dans les camps de déplacés à Bandunduville sont dépourvus de moyens et d'objets scolaires devant leur permettre de reprendre le chemin de l'école au cas où les enseignants arrivaient à suspendre leur mouvement de grève. Leurs parents affirment être dans l'impossibilité de pouvoir assumer cette responsabilité car, disent-ils, n'ayant pas d'emploi ni d'assistance, les responsables du camp François Tabuku craint que ses enfants ne puissent pas étudier cette année et tire la sonnette d'alarme. Des précisions dans ses reportages d'Irène Mboma.
Nous sommes allés à la rencontre de ces déplacés au camp d'hébergement situé dans les entrepôts du grand marché de Malebo, dans la commune de Mayoyo, à Bandunduville. Plus de 800 enfants à l'âge scolaire font partie de ces déplacés, selon François Tabouku, chef du camp. Cependant, ces enfants sont dépourvus des objets scolaires et des moyens pour regagner l'école après la grève des enseignants. Ne sachant à quel sein se vouer, François Tabouku exprime sa désolation.
L'année passée, il y avait beaucoup d'élèves, des enfants déplacés qui n'ont pas étudié à cause de moyens. Cette fois-ci, il y a aussi des enfants qui sont là. Mais jusque-là, il n'y a pas des uniformes, il n'y a pas des objets classiques. Alors, c'est un peu difficile pour que ces enfants-là puissent regagner le banc de l'école.
Préoccupé, il lance un SOS au gouvernement pour une assistance en faveur de ces enfants.
Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Cette année, nous voulons à ce que nos enfants étudient. Malgré la grève, nous attendons l'aide des fournitures scolaires.
Ces déplacés de Kwamout affirment avoir reçu l'aide de certains individus en termes de fournitures scolaires, mais selon eux, cela reste toujours insuffisant par rapport aux besoins. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, la délégation syndicale de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, affirme avoir suspendu son mouvement de grève. Cette décision a été prise jeudi après un échange avec les directeurs des cabinets de la première ministre. Selon le président de la délégation syndicale nationale de la RTNC, Christian Kadifoa Kongoy, le gouvernement a accepté de payer les 8 mois d'arriérés des compléments de salaire sur les 16 réclamés. Les deux parties ont également convenu de se retrouver autour de la table dans 10 jours en vue de finaliser d'autres questions, dont celle de la prime due à la recette des redevances. Christian Kadifoa Kongoy est au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Effectivement, nous avons suspendu le mouvement de sit-in au niveau de la primatie. Après avoir été ici dans le cabinet de Madame la Première Ministre, on s'est convenu à ce qui est, à part les 3 mois qui ont été déjà libérés, ils vont ajouter les 8 mois, ce qui fera un total de 11 sur les 16 mois qu'on était en train de revendiquer pour les arriérés des compléments de salaire des agents et cadres de la RTNC. Alors, pour le contre-saint, nous allons convoquer cette tripartite entre les ministères de la Communication, les ministères d'État et le ministère du Budget et la RTNC ensemble avec les bancs syndicales. Nous avons dit, ok, en attendant que nous puissions continuer les discussions, nous suspendons momentanément ces mouvements de sit-in jusqu'à ce que nous allons reprendre les discussions. Pour ce qui est de la redevance, nous allons aussi en parler avec notre tutelle dès son retour.
Notez également que les personnels de la RTNC veulent avoir des éclairages sur la traçabilité de leurs cotisations mensuelles à la Caisse nationale de sécurité sociale. Direction la province de la Tchopo. Ouverture hier vendredi de la session ordinaire de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Cette session essentiellement budgétaire s'ouvre dans un contexte d'insécurité et de l'épidémie de Mpox dans la région. Une occasion pour le président de l'Assemblée provinciale d'interpeller les gouverneurs afin qu'ils présentent un budget réaliste et réalisable en vue d'apporter des solutions aux problèmes sociaux de la population. Jacques Mkonkole.
Les travaux proprement dits commenceront au mois d'octobre. Ils seront consacrés notamment à l'examen du budget de la province afin de s'assurer que des prévisions sont orientées vers des programmes susceptibles de répondre aux problèmes de la population, notamment les défis sécuritaires. Le président de l'organe délibérant, Mathéus Kanga, appelle l'autorité provinciale et les élus à bien remplir leurs missions respectives, car, a-t-il souligné, cette session plantera sûrement le décor de ce nouveau quinquennat. Signalons que cette cérémonie d'ouverture de la session d'octobre a été organisée en dehors de l'Assemblée provinciale à cause des travaux de réhabilitation à l'hémicycle. Il en sera ainsi pour d'autres plénières jusqu'à nouvel ordre et le déroulement des travaux dépendra du paiement des arriérés des émoluments, sans quoi il sera difficile de poursuivre les activités parlementaires, précise Mathéus Kanga. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, les cadres permanents de concertation de la femme congolaise CAFCO Maniema a procédé à un atelier d'échange d'expériences intergénérationnelles entre les anciens et nouveaux élus. Ceci dans le cadre de l'appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base dans 10 provinces de la RDC. On écoute Nyaluta La Thérèse Cadette Aïché, vice-présidente provinciale du CAFCO Maniema, qui explique au micro de Florence Kizalunga.
L'objectif était de susciter les échanges d'expériences intergénérationnelles entre les anciens et les nouveaux élus pour un renforcement mutuel dans le combat pour l'émergence d'un leadership alternatif soucié de l'intérêt communautaire et du développement durable à la base. Et aussi aider les nouveaux élus à apprendre des expériences de leurs aînés en politique. Nous avons aussi profité pour jeter une base de collaboration et impulser une nouvelle dynamique de travail synergique pour faire avancer les agendas soucieux de l'équilibre homme-femme en politique. Ce que nous attendons, qu'il y ait une collaboration stratégique des élus aux différents niveaux. Pour terminer, qu'il y ait une mise en place d'un forum d'échange entre les nouveaux élus et la société civile en général et avec CAFCO en particulier pour l'accompagnement technique des élus.
Actualité internationale.
Le premier ministre israélien était à la tribune des Nations Unies vendredi à l'Assemblée générale annuelle de l'organisation. Benjamin Netanyahou a tenu l'Iran pour responsable des tensions au Moyen-Orient, tout en accusant l'ONU d'hypocrisie et de partialité à l'égard de l'État juif, mais aussi des critiques à l'endroit de la Cour pénale internationale pour avoir demandé son arrestation. Avant les discours de Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU, des milliers de manifestants se sont rassemblés à New York pour dénoncer l'action d'Israël et son chef dans le Moyen-Orient, principalement à Gaza.
L'invité.
Notre invité est Maître Eric Bisselo, avocat principal du collectif des avocats de M. Jacques Indala, opposant politique et président du mouvement du réveil et des prises de conscience. Dans cet entretien avec Gisèle Cage, Maître Bisselo revient sur la plainte contre Mme Denise Dussochois, accusée d'association de malfaiteurs, torture et viol sur la personne de Jacques Indala. Suivez.
Maître Bisselo, Eric, vous êtes l'avocat principal de M. Jacques Indala. Il y a trois jours, justement, vous avez porté plainte contre Madame Denise Dussochois.
Oui.
Pour quelle raison ?
L'affaire date d'il y a plus ou moins quelques années, mais qui a connu son cheminement le dimanche 15, où Madame Denise Dussochois est sortie de son silence pour relater les sévices qu'auraient fait vivre les services de renseignement à mon client, Monsieur Jacques Indala. Sachant que ce sont des sévices assez graves, notamment parlerait de viol, de sodomie, mais également d'enregistrement, des humiliations. Et bien entendu, en discutant avec mon client, il y a d'autres révélations qui sont beaucoup plus graves, qui n'ont pas encore été dévoilées. Donc nous sommes dans une phase instructionnelle parce que nous pensions que dans un état de droit, comme la République démocratique du Congo se veut l'être, il aurait dû déjà y avoir le parquet qui interpellerait Madame Denise Dussochois pour s'expliquer par rapport à ces faits. Mais devant le silence des cours et tribunaux, il nous fallait prendre l'action et puis faire reconnaître Monsieur Jacques Indala comme étant non seulement victime des sévices pratiqués par les agents de l'ANR selon Madame Dussochois, mais également le faire rétablir dans ses droits.
Vous voulez qu'elle soit poursuivie pour quel fait exactement ?
Écoutez, nous avons déposé une première plainte auprès de la Cour de cassation et puis nous avons déposé une seconde plainte devant l'auditeur militaire. Nous avons pensé que Madame Dussochois pouvait être arrêtée pour association de malfaiteurs, viol commis par les personnes qui ont autorité sur la victime parce que le viol se serait passé dans les locaux de ANR. Donc, et torture corporelle bien entendu et puis injure publique parce que Madame n'a pas la langue dans sa poche. Quand elle est sortie devant les caméras, c'était pour humilier une personnalité publique notoirement connue qui se bat pour la République, pour la jeunesse, mais également pour les valeurs.
Qui est Madame Denise Dussochois ?
Elle se vante d'être l'hirondelle de la République, l'hirondelle des services d'enseignement, celle qu'on peut payer par l'ANER, DEMIAP, CNS, pour aller chercher des opposants politiques en France, en Belgique, parce qu'elle brandit son passeport et les ramener les pieds devant, c'est-à-dire sous-entendu mort ou vif, selon les moyens qu'on y met. Et sous-entendu aussi que sa collaboration avec les services ne date pas d'aujourd'hui, son acquaintance avec le pouvoir politique actuel est due certainement aux origines, mais cela dit, c'est une personne trouble qui se sent au-dessus des lois et au-dessus des institutions de la République. Donc nous pensons que nul n'est au-dessus de la République et nul n'est au-dessus, ça veut dire sous-entend même le chef d'État à son juge naturel. Madame Dussochois, agent de l'ANER ou pas, puisqu'elle réclamait parfois un salaire de l'ANER après avoir exécuté un contrat, nous considérons que ces pratiques sont d'un autre temps et que nous sommes dans un état de droit. Nous devons aller vers un état de droit, que le service le veuille ou non.
Vous venez d'être reçu par la MONUSCO. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale ?
En toute franchise, nous ne voulions pas l'évoquer, mais s'il faut l'évoquer, nous attendons la communauté internationale, la protection de mon client et surtout de nos collaborateurs, mais également que nos tribunaux le chef de l'État prenne conscience que c'est une affaire à la fois des droits et des libertés, mais également une affaire qui engage la République parce que ça engage les services. Et que dans ces services, ils existent des brebis galeux, des gens qui pensent qu'ils peuvent se comporter comme des mercenaires. Quand je suis payé, je peux faire exécuter, je peux faire arrêter au nom du chef de l'État, mais sans que les gestionnaires de ces services soient au courant. Donc nous pensons qu'il y a de l'ordre à mettre dans ces services et que ces temps-là d'exécuter de manière tout à fait arbitraire les opposants politiques est révolu. Nous avons une constitution et nous attendons à ce que les lois soient appliquées. Donc cette protection nous paraît nécessaire et essentielle et au regard de la gravité, au regard aussi certainement des nombres de opposants qui sont passés dans ces geôles et qui, au sortir de là, ont gardé silence, on soupçonnerait forcément une pratique dégradante, bien qui mettrait mal à l'aise tout opposant digne de ce nom.
Vous pensez qu'il y a encore plusieurs autres victimes aujourd'hui qui n'ont pas pu s'exprimer ou qui ne se sont jamais exprimées à ce sujet?
J'en ai la certitude, madame, parce que depuis, nous avons alerté l'opinion publique et il y a des retours. Ou même avec des personnes qui étaient arrêtées récemment avec cette Kikuni, il y a des retours de ceux qui sont exilés. Et donc, nous pensons que le soutien aussi de certains hommes politiques de l'opposition qui appellent en toute discrétion notre client Jacques Ndala pour lui signifier le soutien, mais aussi le féliciter pour le courage, parce que eux, certainement beaucoup n'ont pas eu ce courage-là. Nous pensons qu'effectivement, que ce sont des pratiques qui sont graves. On a eu même certains ex-agents qui disent que ça date depuis le temps de Kabila, mais qu'importe. Aujourd'hui, il y a Félix-Antoine Tshisekedi qui est président de la République. Donc, ce que nous voulons un pays où on respecte les textes de loi, où on n'est pas arrêté parce que nous pensons différemment à ceux qui sont au pouvoir.
Maître Eric Bisselo, merci.
Merci beaucoup.
Maître Eric Bisselo, avocat principal du collectif des avocats de M. Jacques Ndala, répondait aux questions de Gisèle Cage. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Capi. Alain Goy a assuré sa mise en onde sous l'œil vigilant de Jude Bilandankoumar. Au micro, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous d'avoir été avec nous.